Nous allons lire en introduction plusieurs passages dans nos Bibles. Le premier dans le livre du Lévitique, troisième livre de la Bible, rébarbatif à première lecture, mais riche d'une matière merveilleuse, insoupçonnée au départ. Lévitique, chapitre 19, versets 1 à 3. Lévitique 19, 1 à 3. Nous y ferons allusion plus tard. Je lis donc au verset 1er, Lévitique 19. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. » Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et sans entrer dans les détails, je vous fais remarquer, si vous ne l'avez pas remarqué vous-même, cette injonction. Chacun de vous respectera sa mère et son père, qui est comme coincé en sandwich, en quelque sorte, entre cette autre injonction forte, soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel, et cette affirmation, je suis l'Éternel votre Dieu, ce n'est pas pour rien. L'Écriture sainte, parole de Dieu, est inspirée dans ces mots, non seulement dans leur essence, dans leur contenu, mais aussi dans l'ordre dans lequel ils nous ont été transmis. Il y a donc une raison derrière la manière de construire le message ici, dans ces trois premiers versets. Second texte, dans le livre du Deutéronome, cinquième livre de la Bible, donc un peu plus loin, au chapitre 5, nous avons lu la totalité des 10 commandements, mais ce matin, nous faisons ressortir, au verset 16, un commandement qui entre dans le cadre de notre réflexion. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous allons vers le livre des Proverbes, qui abonde en réflexion sur l'éducation des enfants, Proverbes chapitre 23, donc psaume, Proverbes 23, versets 22 à 26, Proverbes 23, versets 22 à 26, Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille, acquiers la vérité, ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. le père du juste. Et dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse, mon fils. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et enfin, dans le Nouveau Testament, pour souligner l'unité des Écritures, et dans la lettre de Paul aux Colossiens, église située dans une partie de l'actuelle Turquie, Colossiens chapitre 3, verset 20, Colossiens chapitre 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Je rappelle tout d'abord à quel point nous en sommes de notre réflexion, puisque nous avons maintenant quelques 7 temps de réflexion sur ce thème, l'éducation des enfants, priorité et équilibre. Puisque l'an dernier déjà, nous avons eu successivement 2 séries de 3 études. La première, les 10 et 11 février 2001, donc, traitant d'une priorité par excellence, de ce que j'appellerais la priorité fondamentale, qui préside ou qui devrait présider à l'éducation de nos enfants, à savoir éduquer par l'exemple. Nous y aurons d'ailleurs fait allusion à nouveau hier soir, parce que cela reste une toile de fond absolument incontournable chaque fois que nous traitons de ce thème. La deuxième série de 3 études, les 16 et 17 juin de l'an dernier, traitait de la seconde priorité fondamentale qui va de soi, qui est une question de bon sens, bien que nous l'avons remarqué hier soir, nous avons oublié le bon sens. C'est fou ce que l'homme perd son bon sens lorsqu'il s'écarte de Dieu, et combien il va d'ailleurs se perdre dans de faux raisonnements, se vantant d'être sage, dira le rédacteur inspiré de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, ils sont devenus fous. Et nous sommes devenus fous dans l'approche de l'éducation des enfants en nous écartant de Dieu, puisque nous avons pensé que les enfants pouvaient être éduqués autrement que par leurs parents. Même dans le monde animal, il est quantité d'animaux qui sont plus sages par instinct que l'homme, dépourvu d'intelligence lorsqu'il vit loin de Dieu. Et nous avions donc longuement évoqué la place de maman et celle de papa, tout en y mettant les nuances nécessaires pour ne pas condamner qui que ce soit, pour ne pas décourager, pour ne pas laisser l'occasion à la puissance des ténèbres d'accabler. Là, il ne doit pas y avoir accablement. C'est vrai qu'il y a des situations, je le redis, où on ne peut pas faire autrement que d'éduquer seul. Mais nous n'avons pas le droit d'ériger ce qui doit être marginal en norme, en règle habituelle de vie, ce qu'hélas nous avons fait. Et ce que nous faisons aussi trop souvent dans l'Église de Jésus-Christ. Il s'agissait donc des 6 premières études sur notre thème. J'ose le dire au passage, puisque il y a des amis qui nous rejoignent, on vient, on va, au gré des circonstances. Ces 6 études sont enregistrées sur cassette et vous pouvez donc aller vers notre ami Walter Streif si vous désiriez pouvoir écouter la première partie, ces 6 études qui sont les fondations de notre réflexion, désormais très pratique sur ce thème. Et comme annoncé, nous avons commencé hier soir à nous pencher sur les grandes règles pratiques de l'éducation. Et là aussi, pour pouvoir mieux mettre en évidence ces règles pratiques, il nous fallait leur donner une toile de fond. Il fallait, en quelque sorte, une base de velours noir pour que le diamant d'une belle éducation à la gloire de Dieu scintille sur un fond particulièrement sombre. Et c'est pourquoi nous avons évoqué l'embarras qui est celui de nos contemporains et parfois même, hélas, alors, et mille fois hélas, le nôtre dans l'Église de Jésus-Christ, devant cette absence de règles, ces théories contradictoires, ce règne du flou qui fait qu'en allant d'un manuel de pédagogie vers un autre, on ne sait plus finalement à quel saint se vouer. Nous avons évoqué toutes les craintes qui peuvent être les nôtres si nous marchons à contre-courant. Parce que, de toute évidence, l'enseignement des Écritures sur ce thème est fortement à contre-courant, à contrario, n'est-ce pas, de tout ce qui nous est proposé, offert, voire presque maintenant ordonné par notre société post-chrétienne et par les éducateurs de notre temps. Alors nous avons essayé de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là et qu'est-ce qui imprègne actuellement nos mentalités. Nous nous sommes donc penchés sur toute une lignée de philosophes qui ont instillé le relativisme, l'absence d'absolu, la négation de Dieu, avec tous ces corollaires que nous avons longuement évoqués. Kant, Hegel, Kierkegaard, Karl Marx, Nietzsche, Freud, Jean-Jacques Rousseau. Nous les avons vus défiler hier soir, chacun détruisant un peu plus le tissu biblique sur ce thème de l'éducation des enfants. Et nous nous sommes en particulier arrêtés sur l'un des disciples modernes de la seconde partie du siècle dernier, de Jean-Jacques Rousseau, en ce qui concerne l'éducation des enfants, ce fameux docteur Benjamin Spock, auteur d'un livre révolutionnaire sur le sujet en 1946 aux États-Unis, mais qui ensuite s'est répandu dans le monde et qui fait encore des dégâts aujourd'hui par le biais de ses disciples, dont Dodson, pas Dobson, je le répète, Dobson c'est le bon, vous avez des livres sur la table du fond à droite que je vous recommande, Dodson avec un D c'est le mauvais, j'ose le dire, quoi qu'il y ait de bonnes choses, mais vous savez, pour avaler le mauvais, il faut avoir du bon, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de sucre autour du médicament, vous savez que l'enfant ne le prendra pas. Nous sommes de grands enfants dans ce domaine. Alors nous aurons l'occasion d'ailleurs de dire quelques mots encore de ce Dodson avec un D, comme d'équerre, cet après-midi. Et bien sûr, cette conception de l'enfant naturellement bon, puisque c'est là que nous sommes arrivés au bout du compte. L'enfant est naturellement bon, Il est rempli de dispositions extraordinaires qui ne demandent qu'à s'épanouir. Le problème, c'est que la société le corrompt. Et elle le corrompt à cause de la croyance dans l'existence de Dieu, à cause de lois contraignantes, à cause de tabous de tout genre, à cause de ses parents, qui sont une sorte de rempart appartenant à de vieilles conceptions, etc., etc. Et nous avons vu les fruits d'une telle conception, nous avons vu ce qu'a été la génération des bébés Spock, devenus enfants, adolescents, adultes. Et il est bien évident que dans la génération de 1968, il y avait bien des bébés Spock devenus grands et qui avaient absorbé avec le lait maternel dans leur petite enfance toutes ces théories farfelues et dangereuses de ce fameux docteur Spock. Et nous avons finalement cité un certain nombre de personnages de l'histoire, que ce soit Platon, 4 siècles à peu près avant Jésus-Christ, que ce soit l'un des rédacteurs, ils ont été nombreux, du Talmud, ce recueil de traditions rabbiniques qui a été rédigé à partir du 4e siècle et qui interprète de moult manières la loi de Moïse. Nous avons cité, et là c'était un petit jeu, un certain nombre de déclarations fortes, très pessimistes et négatives, qui ont pu même, je pensais en les citant, quelque peu révolter le cœur de certains jeunes parmi nous, en disant quand même, ils y vont fort. Hein, lorsque je citais « Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. » Il est évident que c'est un rude pavé dans la mare de nos illusions. Et là où nous aurions pu penser que de telles déclarations émanaient de moralistes d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les 4 déclarations très fortes, après celle de Platon, après celle du Talmud, émanaient de sages qui avaient vécu, disons, entre le 4e siècle avant Jésus-Christ, Socrate, et quelques 3000 ans avant Jésus-Christ pour la dernière. Celle qui nous paraissait la plus dure à avaler. Elle date de l'époque de la Babylone, peut-être la Babylone d'Abraham, Uran-Chaldée, toute cette Mésopotamie d'un lointain passé. Et si nous avons cité ces passages, c'est pour en arriver à conclure hier soir avec le verdict de Dieu sur l'homme. Si tout au long de l'histoire et en dehors de la foi chrétienne et non seulement dans le judaïsme, chez les païens, chez les philosophes grecs, nous l'avons vu chez les égyptiens et dans d'autres civilisations, des hommes observateurs de la nature humaine se sont accordés tout en vivant à des époques différentes pour tous reconnaître qu'il y avait quelque chose de désespérant et de désespérément mauvais dans la nature humaine. S'ils se sont tous accordés pour dire cela, c'est parce que sans le vouloir, ils rejoignaient le verdict de Dieu sur la nature humaine. Verdict qui retentit dès les premières pages de la Genèse, non seulement dans la chute d'Adam et Ève, avec ses conséquences, mais aussi à l'époque du déluge, comme nous l'avons remarqué, puisque la génération de Noé a été condamnée, le déluge est arrivé, quelque chose de cataclysmique que nous ne pouvons même pas imaginer, même lorsqu'un cyclone se déchaîne de la manière la plus terrible qui soit, ce n'est rien à côté de ce que la terre a vécu dans le déluge, parce que les pensées du cœur de l'homme étaient chaque jour uniquement tournées vers le mal. Et nous le disions hier soir, là où certains pouvaient naïvement penser que le déluge était aussi une sorte de lessive, de bon bain du samedi, comme on disait autrefois, de bonne purification de la terre entière, Dieu, immédiatement après que Noé soit sorti de l'arche, s'empresse de lui dire, sur la terre à peine sèche, tu sais Noé, ne te fais pas d'illusions, le cœur de l'homme n'a pas été changé par le déluge. Ton cœur est toujours le même. Genèse chapitre 8, verset 21, le cœur de l'homme est disposé au mal dès son enfance. Et d'ailleurs, Noé va rapidement s'en apercevoir, puisqu'il va faire connaissance du fruit de la vigne, il va connaître l'ivresse et ses dégâts, et tous les malaises qui s'ensuivent dans la vie de famille. Nous aurons l'occasion d'y venir, ceci est au chapitre 9. Et ce n'est pas un texte exceptionnel dans les Écritures que Genèse 8, 21, puisque dans Proverbe 22, 15, il est dit que la stupidité ou la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et quand il est question du cœur, bien entendu, il n'est pas ici, je le redis, question de notre pompe musculaire, notre muscle cardiaque, n'est-ce pas, mais de l'épicentre de la personne, du quartier général de nos individualités, de la source de notre vie, disent les Écritures. Donc, la folie est attachée à la racine de notre être. C'est la racine de notre être qui est polluée, mes amis. Et en repensant moi-même à notre étude d'hier soir en rentrant à la maison, et cette nuit, ce matin, en réfléchissant à la suite, je pensais combien le christianisme a eu du mal à admettre que le cœur de l'homme était corrompu, combien jusqu'à la racine de notre personne nous sommes corrompus. Même la doctrine catholique de la nature humaine est faussée à ce niveau-là. Bien que l'on parle souvent du péché dans la doctrine catholique, la doctrine catholique du péché et de la nature humaine repose essentiellement sur la théologie d'un grand docteur du plein Moyen-Âge, je crois 12e siècle, si je me souviens bien à peu près, Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin va souligner que la nature humaine n'est pas entièrement mauvaise. Pas entièrement. Ce qui sort d'elle n'est pas nécessairement toujours un péché. Elle n'est pas polluée, elle n'est pas atteinte par le péché dans sa construction. Oh, c'est extrêmement subtil, au point que ce qu'on appelle les thomistes, c'est-à-dire qu'il se penche en particulier sur cette théologie de Thomas d'Aquin, qui a été canonisée, un saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, ne sont pas d'accord avec elle, tellement c'est subtil. Mais l'idée maîtresse qui est cachée derrière, c'est tout de même qu'il y a quand même dans le cœur de l'homme une étincelle de pureté, de dimension qui n'est pas gangrénée par la faute, par le péché. Les Écritures s'inscrivent complètement à contrario de cette pensée. Il ne suffirait pas, en quelque sorte, de réussir par toutes sortes de bonnes œuvres à souffler, à attiser cette étincelle de bon dans la nature humaine pour qu'une sorte de feu s'embrase qui finisse par la rendre agréable à Dieu. Non. Nous sommes totalement pollués dans le sens le plus absolu du terme, jusqu'à la plus profonde racine et radicelle de notre cœur humain un point, c'est tout. Et vous savez, même nous, disciples de Jésus-Christ, nous avons beaucoup de peine à l'accepter. Et ce sont souvent, finalement, les années de marche avec le Seigneur, d'humiliation, de larmes sur nous-mêmes qui nous font perdre peu à peu nos illusions, parce que continuellement, nous sommes tentés de penser que, après tout, il y a quand même quelque chose de bon qui est caché là, à quelque part. David le dira, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Ou encore, « Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Pour ne pas dire que la grossesse et la mise au monde d'un enfant sont en eux-mêmes des actes impurs, on pourrait mal comprendre. Un écrivain profane a écrit ceci. « Chaque enfant vient au monde en hors-la-loi. Il s'efforce de centrer l'univers sur lui et d'en faire ce qu'il désire. Son propre cercle à son service. Dans un rapport de la Commission sur la criminalité d'un État des USA, on peut lire ceci. En venant au monde, tout bébé est un petit sauvage. Il est foncièrement égoïste et égocentrique. Il veut ce qu'il veut au moment où il le veut. Son biberon, l'attention de sa mère, les jouets de ses compagnons de jeu, la montre de son oncle, ou quoi que ce soit d'autre. Refusez-les lui, et il bout d'une rage et d'une agressivité qui serait meurtrière s'il n'était pas si faible. Il est sale. Il n'a aucune morale, aucune connaissance et aucune capacité utile. Cela signifie que tous les enfants, pas seulement certains, mais tous, sont des délinquants nés. Si on lui permet de continuer à évoluer dans l'univers centré sur lui-même de sa petite enfance, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, c'est moi qui l'ajoute, de donner libre cours à ses actions impulsives pour satisfaire tous ses désirs, rappelez-vous la pensée de Freud, c'est moi qui l'ajoute, n'importe quel enfant peut devenir un criminel, un voleur, un assassin, un violeur. Et c'est pourquoi, bien que je n'aimerais pas l'entendre dire par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des choses qu'on préfère dire soi-même plutôt que de se l'entendre dire par les autres, n'est-ce pas? Pourtant, je n'hésite pas à dire que si la grâce de Dieu n'était pas intervenue dans ma vie, je serais peut-être un nouvel Hitler aujourd'hui. Ainsi est notre cœur. La présidente d'une association internationale qui s'occupe des mères d'enfants d'âge préscolaire a partagé aussi avec son expérience cette vision du monde d'un enfant, le credo d'un tout petit. Si je le veux, c'est à moi. Si je te le donne et que je change d'idée par la suite, c'est à moi. Si je peux te l'enlever, c'est à moi. Si je l'avais il y a quelques instants, c'est à moi. Si c'est à moi, ça n'appartiendra jamais à quelqu'un d'autre, quoi qu'il arrive. Si nous construisons quelque chose ensemble, tous les morceaux sont à moi. Si la chose ressemble à la mienne, c'est à moi. J'ai sous les yeux aussi 10 commandements qui ont été élaborés par ce que nous appellerions, nous, en France, un commissariat de police. qui sans doute en avait ras-le-bol, comme beaucoup de commissariats de notre pays aujourd'hui, des problèmes rencontrés au niveau de la délinquance. Voici donc ces 10 commandements élaborés par la police de Houston au Texas. Dès l'enfance, donnez-lui tout ce qu'il désire. Il grandira ainsi en pensant que le monde entier lui doit tout. Deuxièmement, s'il dit des grossièretés, riez. Il se croira très malin. Troisièmement, ne lui dites jamais c'est mal. Il pourrait faire un complexe de culpabilité. Freud. Quatrièmement, ramassez ce qu'il laisse traîner. Ainsi, il sera sûr que les autres sont toujours les responsables. Nous sommes déjà dans les conceptions pratiques, n'est-ce pas? Parce que un professeur a voulu enseigner à ses élèves du cours élémentaire première année à quoi servait un aimant. Alors, le jour suivant, il fait un test écrit avec ses enfants. Et il leur pose la question suivante, une devinette. Je ramasse des choses. Qui suis-je? Et quand le professeur recueille les feuilles du test, il est vraiment étonné de découvrir que près de 50% des élèves avaient répondu à la question par le mot « mère »,« maman ». Eh oui. C'est peut-être notre problème, n'est-ce pas? Et maman ramassera. C'est pratique, hein? Moi, je n'ai pas besoin de me baisser. Pourtant, je suis rasmote, hein? Je suis plus près du sol. C'est moins fatigant pour moi. Je risque moins d'avoir des problèmes de genoux et de dos, hein? Mais non. Maman ramassera. Rappelez-vous ce qui est écrit dans ce quatrième commandement. Ramassez ce qu'il laisse traîner. Ainsi, il sera sûr que les autres sont toujours les responsables. Cinquièmement, laissez-lui tout lire. Mais stériliser sa vaisselle. Mais laissez son esprit se nourrir d'ordures. Sixièmement, disputez-vous toujours devant lui. Quand votre ménage craquera, il ne sera pas choqué. Septièmement, donnez-lui tout l'argent qu'il réclame. Qu'il n'ait pas à le gagner. Il ferait beau voir qu'il ait les mêmes difficultés que vous. Huitièmement, que tous ses désirs soient satisfaits. Nourriture, boisson, confort. Sinon, il sera frustré. Freud. Neuvièmement, prenez toujours son parti contre les voisins. Les professeurs, la police. Vous voyez qu'ils ont été chics au commissariat. Ils ont mis la police en dernier pour qu'on ne les accuse pas de parti pris. Et dixièmement, et quand il sera vraiment un vaurien, proclamez vite que vous n'avez jamais rien pu en faire. Alors nous avons lu dans le Deutéronome, tout comme nous aurions pu lire dans Exode 20, puisque les 10 commandements figurent deux fois, puisqu'il y a eu deux générations successives qui ont eu besoin de les entendre. Nous avons lu ce commandement, honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux. On cherche le bonheur. Hein? Afin que tu sois heureux. Et puis, il paraît que c'est même le chemin pour vivre plus longtemps. Parce qu'il est vrai que quand on est heureux, on peut aussi parfois vivre plus longtemps. C'est pas systématique. Mais ce sont des indications d'ordre général. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Oui, mais on ne veut plus des 10 commandements aujourd'hui. C'est dépassé. C'est inutile dans le monde moderne. Au stade où l'homme en est arrivé aujourd'hui, les 10 commandements sont des béquilles pour ceux du passé. Et nous, aujourd'hui, nous sommes une civilisation évoluée. J'ai sous les yeux un témoignage passionnant. Il émane du directeur d'une institution chargée d'encadrer des jeunes en difficulté. Et ce directeur, un croyant authentique, raconte ceci. Je vais vous le livrer tel quel, plutôt que de vous le raconter moi-même. Voilà le témoignage qu'il donne un peu partout. Écrit-il, il y a des jeunes qui déclarent pouvoir fort bien vivre sans religion. Autrefois, je croyais de mon devoir de réfuter cette prétention. À tout le moins, disais-je, un certain code moral demeure indispensable. Aujourd'hui, je sais que les 10 commandements, par exemple, se défendent d'eux-mêmes sur le terrain de la vie pratique. Un jour, j'appris que Tom, un des jeunes confiés à notre maison, ne voulait même pas d'un minimum d'obligations morales. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont comme ça. Comme il me le dit lui-même, les règles élémentaires auxquelles je semblais tenir pouvaient être utiles à un homme de mon âge. Mais à 14 ans, il est normal d'envisager l'existence sous un autre jour. Alors, je mise sur pied un plan d'action fondé sur la règle vieille comme le monde. Ce qui est bon pour moi l'est nécessairement aussi pour toi. Si tu crois pouvoir te passer de religion, dis-je à Tom, alors je le puis aussi. Il acquiesça. Bon, nous allons donc laisser de côté les 10 commandements qui nous ont été donnés dans la Bible par Moïse et nous allons nous débrouiller sans eux. Et de nouveau, Tom acquiesça. Pendant la semaine qui suivit, en faisant ma ronde nocturne dans la chambre des jeunes, je lui dérobai pendant son sommeil son album de timbres. La nuit d'après, ce fut son stylo à billes, puis une modique somme d'argent. La réaction ne se fit pas attendre, il se présenta à moi en proie à la plus vive agitation. On lui avait volé ceci et cela et encore ceci. Eh bien, qu'y a-t-il là d'injuste ? Lui demandai-je. « Comment ? Mais ce n'est pas injuste de soustraire aux autres ce qui leur appartient, mais ça alors ?» À cette protestation indignée, je répondis sur un ton aussi ingénu que possible, « Mais qu'entends-tu par juste ou injuste ? Cela ne joue plus de rôle puisque nous avons convenu ensemble d'abandonner les 10 commandements. L'un d'eux dit, il est vrai, tu ne déroberas point, mais... puisqu'on peut fort bien s'en passer. » Tom avait l'air persuadé. J'ouvris mon tiroir et j'en sortis les objets en question. « Si ce simple vol te touche pareillement, je veux bien te rendre tes affaires. » Il me regarda stupéfait. « Comment ? Mais c'est vous qui m'avez pris cela ?» Ben, naturellement. J'agis maintenant d'après notre principe selon lequel le vol n'est pas défendu. » Il sourit. Oh, tout de même, je ne m'attendais pas à cela de vous. Peut-être, mais c'est logique ou bien ? Il dut en convenir et nous résolûmes de remettre en vigueur la loi concernant le vol. Après quoi, ce fut le tour du mensonge. « Ta mère viendra te rendre visite samedi, » annonçai-je à Tom quelques jours plus tard. « Il faudra qu'à 10 heures tapant, tu sois prêt à la recevoir. » On s'en doute, c'est en vain que l'adolescent attendit sa mère au jour et à l'heure indiquée. Elle ne vint pas. « L'as-tu vraiment attendu ? » demandai-je un peu plus tard à Tom. « Bien sûr ! Vous m'aviez pourtant dit qu'elle viendrait.
Ben non, je ne t'ai rien dit de la sorte.
Si vous l'avez dit, assurément non.
Tom rougit d'indignation.
Comment osez-vous affirmer n'avoir pas dit cela? Mais c'est un mensonge pur et simple.
Vraiment? Et quand cela le serait?
Eh bien, ça voudrait dire que je ne puis plus avoir la moindre confiance en vous. Parce que si les gens se mettent à ne plus dire toujours la vérité, on ne sait plus si on doit les croire ou non.
Dans ce cas, nous ferions bien de rétablir le commandement relatif aux faux témoignages. Qu'en penses-tu?
Tom approuva, et profitant de l'occasion, je continuai.
Supposons maintenant que l'on vienne cambrioler la maison de tes parents. Et tu es ta mère.
Oh, tu n'aurais sûrement rien à objecter.
Aussi, bien sûr.
Il avait beaucoup à objecter contre une telle façon d'agir. En conséquence, le 8e commandement fut réintroduit. Tu ne tueras point.
Et maintenant, Tom, mets-moi sur un papier neuf ou 10 règles élémentaires dont tu penses que nous devrions les maintenir en vigueur et les observer.
Alors, nous nous dirigerons d'après elles.
Tom accepta ma suggestion et il se trouva que les 10 commandements furent intégralement remis à l'honneur dans notre maison.
Les 10 commandements se défendent sur le terrain.
Ils appartiennent une fois de plus au simple bon sens.
Encore faut-il que le cœur humain, obscurci par le péché, se laisse éclairer par leur auteur.
D'ailleurs, c'est fou ce que nous sommes bourrés de contradictions dans ce domaine. J'en ai encore un exemple très bref. Il s'agit d'un organisme athée qui, durant la période des fêtes de fin d'année, avait accroché un écriteau près de la scène de la nativité dans une ville des États-Unis. Et sur cet écriteau figuraient ces lignes: que le bon sens prévale en cette saison du solstice d'hiver. Il n'y a pas de Dieu, pas de démon, pas d'ange, pas de ciel ni d'enfer, la seule chose qui existe en notre est notre monde matériel.
Vous vous rappelez de Marx hier soir.
La religion n'est que mythe et superstition qui endurcit les cœurs et asservit les esprits.
Si quelqu'un gêné par le contenu de cet écriteau avait voulu l'arracher,
en s'approchant un peu, il aurait pu voir au verso de l'écriteau cet avertissement
« Tu ne déroberas point », c'est-à-dire un des 10 commandements.
Ça, c'est la contradiction de notre vie. Hein?
Tant que ce sont les autres qui payent, ça va. Mais le jour où nous sommes atteints dans notre propre personne, c'est fou ce que les 10 commandements de Dieu redeviennent essentiels à notre regard.
D'où,
et nous le disions hier soir en annonçant la suite, d'où la nécessité d'une éducation ferme dès le berceau. Bien sûr que si le petit bébé tout rose, n'est-ce pas, nous l'avons dit hier soir, n'était pas mauvais dans sa nature, nous pourrions envisager son éducation différemment.
Mais puisqu'il en est ainsi, puisque nous devons nous résoudre à ce terrible constat qui nous concerne d'ailleurs aussi en tant qu'adultes, nous comprenons que Dieu soit logique avec lui-même dans sa sagesse éternelle et qu'il demande donc aux parents d'éduquer avec fermeté l'enfant dès le berceau. Et comme nous aurons l'occasion de le dire plus tard aussi, de le guider de manière à ce qu'un jour, il rencontre son sauveur, celui qui change le cœur, celui qui donne un cœur nouveau et qui permet alors une autre vie avec un système de pensée renouvelé qui jaillit sur le comportement, sur la vie de tous les jours. Une éducation ferme dès le berceau. Faut-il tout de suite, dans le souci d'équilibre à partir de cette priorité, faut-il, mais reconnaissons-le, il est si facile de manquer d'amour lorsque l'on veut être ferme dans l'éducation. Éducation ferme dès le berceau. Les premières années de la vie d'un enfant sont capitales. Capitales pour Dieu, pour son royaume, mais aussi capitales pour la puissance des ténèbres. Parce que si l'ennemi gagne pendant les premières années de la vie, ça peut faire des dégâts pendant de longues années. Nous le verrons. Un chef communiste a déclaré ceci: l'enfant de 5 à 6 ans se laisse modeler à notre guise. De 8 à 9 ans, il s'agit de le courber. De 16 à 17 ans, il faut le briser. Plus tard, nous sommes obligés d'admettre que seule la tombe peut le corriger de son infirmité. Les jésuites, dont une des activités essentielles a été celle de la formation des enfants, ils ont toujours pensé que l'éducation de l'enfant, son éducation intellectuelle aussi, était d'une importance capitale pour l'avenir. Les jésuites disent « Donnez-nous un enfant jusqu'à 7 ans. » Un médecin français, faisant le point des recherches les plus récentes, déclare qu'il est de plus en plus prouvé que les 5 premières années de la vie sont extrêmement importantes et comportent des richesses mentales insoupçonnées. Le point d'équilibre entre naissance et âge adulte se situe à la 3e année. Et vous avez remarqué, hier, nous le reprendrons cet après-midi, il est dans mon sac, ce livre de Dodson, dont nous lirons sans doute un tout petit échantillon, et qui s'intitule, n'est-ce pas, « Tout se joue avant 6 ans ». J'ai même remarqué qu'on continue à descendre, n'est-ce pas ? On est passé de 7 ans à 5 ans, à 3 ans, on descend toujours plus dans ce domaine. Je ne sais pas exactement qui a raison, ce n'est pas très important. Le principe est juste. C'est que les premières années sont absolument capitales pour l'avenir de l'enfant. Oh, il faut immédiatement, priorité et équilibre, il faut immédiatement corriger ce que je viens de dire à quelque part. Nous serions dans l'ornière de l'inéluctable. Et nous serions obligés d'être fatalistes en ce domaine. Si nous évacuions la rencontre de l'adolescent, de l'adulte, même du vieillard avec Jésus-Christ, qui, heureusement, ça c'est la grâce de Dieu, peut, non pas, je dirais, évacuer, nettoyer, effacer toutes les conséquences des premières années, mais qui permettent, et c'est merveilleux, un nouveau commencement, qui permettent de rebâtir sa vie sur des bases nouvelles, puisqu'il s'agit bien de naître d'en haut, de naître de nouveau, de naître une deuxième fois. On recommence le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, etc., n'est-ce pas ? Ça, c'est le miracle qui n'existe que dans le christianisme, biblique, bien entendu. Même Nietzsche, nous l'avons évoqué hier, qui, lui, aspirait à, au surgissement de l'homme nouveau, du surhomme, a abouti à l'échec le plus lamentable, puisque, je le disais hier soir, il a terminé sa vie dans la folie, 10 ans de sa vie dans la folie. Il n'y a que le christianisme des Écritures qui puisse annoncer qu'on peut naître de nouveau, on peut tout recommencer, on peut recommencer sa vie à zéro, comme dit la chanson. Même si nous allons devoir traîner avec nous encore durant notre vie sur cette terre, même après la nouvelle naissance, certaines des lacunes liées effectivement aux premières années de notre vie passée. L'éducation de nos enfants commence à la naissance. Et je vais même dire mieux, on va franchir le mur du son. L'éducation de nos enfants commence avant la naissance. C'est curieux. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce que nous voulons dire, c'est que l'éducation des enfants doit en quelque sorte se préparer avant leur naissance. Cela signifie qu'on n'invente pas les règles d'éducation en cours de route. Et y compris dans l'Église de Jésus-Christ. Trop de jeunes inventent les règles d'éducation et se mettent à se gratter la tête. Comment est-ce qu'on va s'y prendre une fois que le petit bébé pointe son nez rose et ses mains refermées, vous vous souvenez d'hier soir. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord. Le jeune disciple de Jésus-Christ qui fréquente la jeune disciple de Jésus-Christ, et inversement, doivent s'interroger. Ils doivent se pencher sur la question ensemble. Lorsqu'ils envisagent dans le plan de Dieu, en s'en référant à la volonté de Dieu, de fonder un foyer, ils doivent en discuter. Et ils doivent tout d'abord voir si leur conviction s'accorde, s'harmonise. Il ne s'agit pas de découvrir avec surprise, une fois qu'on a dit oui devant Dieu et devant les hommes, que sur des éléments de base, des principes fondamentaux de pratique de l'éducation, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas le moment de se déchirer, de s'invectiver et de tirer à U et à DIA chacun de son côté. C'est dangereux. Il faut s'asseoir avant. Comme le dit Philippiens chapitre 2 dans les tout premiers versets, dans ce domaine aussi, il faut que, en tant qu'enfant de Dieu dans le couple, on soit un. Qu'on se soit accordé donc sur, pardon de le dire ainsi, une philosophie commune avant la naissance. Que dit Dieu dans sa parole de l'éducation des enfants? Sommes-nous prêts, toi et moi, à simplement nous soumettre à l'autorité de Dieu, aux enseignements de sa parole, pour pouvoir vraiment faire équipe ensemble, pour pouvoir déjà avant la naissance, pendant que le petit bébé est là, en gestation, dans le sein de la mère, est-ce que nous pourrons déjà aussi prier pour ce bébé, mais prier dans la même direction? Est-ce que nous pourrons dire l'un et l'autre « Amen » à la prière de l'autre? Et est-ce qu'au moment où nous l'accueillerons dans le petit nid douillet de notre foyer, il va au début de manière inconsciente, mais ensuite de manière de plus en plus consciente, réaliser à quelque part notre union, notre unité de vue, la fusion de notre pensée, parce que ce sera pour lui un facteur d'équilibre et de sécurité
dans les premières années de sa vie. Malheur au jeune couple qui s'installe dans les tensions et les ordres contradictoires, dans toutes ces oppositions qui, au fur et à mesure que l'enfant grandit, vont être utilisées par lui. Parce que l'ennemi est le diviseur, et vous savez combien l'enfant, quand il sent du flottement et des contradictions entre ses parents, profite de ces divergences pour casser l'autorité, pour profiter, n'est-ce pas, de ces dissensions et faire le mal selon son cœur naturel. Pourquoi, disait l'enfant d'un jardinier, donnes-tu tant de soins, père, à ce jeune arbuste, et jamais à ce beau poirier? En vérité, ce n'est pas juste, car l'un n'a jamais rien produit, et l'autre, tous les ans, donne beaucoup de fruits. Mon fils, lui répondit le père, pour l'arbre que ton choix préfère, j'ai fait jadis ce que tu me vois faire, en ce moment pour celui-ci. Alors, son tronc était flexible, mais depuis il a bien grossi. Le soigner aujourd'hui ne serait plus possible. Il faut de l'arbre naissant bien diriger la jeune tige. Il en est ainsi d'un enfant, petit, on le corrige. On ne peut plus rien quand il est grand. Et même le poète Charles Péguy, qui aimait répéter « Tout est joué avant que nous ayons 12 ans », voilà encore un, n'est-ce pas, qui avait évalué les choses. Charles Péguy va dire ces quelques vers « Sur ces premiers matins, veillons pieusement. Tout dépend ici-bas de son commencement. Mauvais sera le jour si l'aurore est obscure, amer sera le fruit touché d'une piqûre. On trouble tout le fleuve en troublant le ruisseau. L'homme enfin tout entier se ressent du berceau. » Et combien cela est vrai, puisque là nous laissons parler l'excellence, c'est-à-dire Dieu lui-même dans sa parole, Proverbe 22, verset 6. « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » C'est un principe général. Qu'il ait des exceptions peut-être, mais c'est un principe général. D'ailleurs, littéralement, le texte dit « Oriente le jeune garçon sur la bouche de sa voix », c'est-à-dire à l'entrée de sa voix. La traduction du rabbinat français, donc faite par les rabbins juifs, de Tzadok Kahan exactement, dit ceci « Donne au jeune homme de bonnes habitudes au début de sa carrière. Même avancé en âge, il ne s'en écartera pas. » Ou encore, Proverbe 20, verset 11, « Le jeune garçon laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera sans reproche et droite. » En 1963, un adolescent âgé de 14 ans, était plaignant devant la Cour suprême des États-Unis, dont on parle beaucoup, n'est-ce pas? On en a énormément parlé au moment de l'élection contestée de l'actuel président des États-Unis. On en parle beaucoup chaque fois qu'il est question d'une nouvelle exécution capitale qui pointe à l'horizon dans l'un ou l'autre des États des États-Unis. Et donc il était plaignant devant la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Donc il avait franchi un certain nombre d'échelons.
Et il mettait en accusation une tradition populaire pratiquée depuis plus de 200 ans aux États-Unis par des millions d'élèves et d'étudiants, la lecture de la Bible et la prière à haute voix dans les écoles. Alors la question se pose ici, mais comment un adolescent a-t-il pu envisager, dans le contexte des USA, en 1963, d'envisager donc un tel acte? Quel était son contexte familial? Sa mère était une athée militante, très engagée dans les milieux révolutionnaires. Elle s'adonnait à la drogue. Dix-sept ans plus tard, en 1980, cet adolescent était donc devenu un adulte âgé de 33 ans, qui préparait donc en 1980 une campagne d'action pour faire supprimer la mention de Dieu dans le serment national de son pays. Or, il se trouve, et c'est là que nous rejoignons notre commentaire de tout à l'heure, qui nous évite le fatalisme, la déprime, la dépression, si tout était inéluctable à cause de l'enfance, n'est-ce pas? Heureusement, par la grâce de Dieu, pendant la préparation de ce projet, cet homme âgé de 33 ans s'est repenti. Il a regretté, dans le plus profond de son cœur, dans ses pensées, dans sa mentalité, ses attitudes, ses actions coupables. Il a fait un demi-tour intérieur jusqu'à la racine de son être. Et il a reçu le pardon de Dieu en reconnaissant Jésus-Christ comme son sauveur et le Seigneur de sa vie. Oh, son nom est bien connu aux USA. William Murray. Fils de Madeleine Murray O'Hare, très connue là-bas pour ses interventions contre la foi. Elle a, entre autres, porté plainte quand les astronautes, pendant leur expédition lunaire en 1969, et certains d'entre nous s'en souviennent sans doute, ont lu le fameux texte biblique de Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », elle a porté plainte dans son acharnement à faire disparaître le nom de Dieu de la civilisation américaine. Quant à son fils, William Murray, il a, peu de temps après avoir rencontré Jésus-Christ ou avoir été rencontré et sauvé par Jésus-Christ, il a publié une autobiographie dans laquelle il n'a pas hésité à mettre en cause l'atmosphère familiale dans laquelle il avait vécu son enfance, atmosphère de rébellion, de haine et de critique. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Voulez-vous un exemple qui appartienne à notre culture européenne? Même à notre culture française? Mieux encore, à un des particularismes français qui nous intéresse beaucoup, mon épouse et moi, et en particulier nos trois aînés, à savoir la Bretagne, puisque nous y avons travaillé pendant une bonne dizaine d'années, un peu plus même pour mon épouse. Cette illustration concerne un homme dont l'histoire est entrée dans la tradition populaire. Et dans cette tradition populaire, on a identifié cet homme, dont je vais vous parler très très brièvement pour terminer, on l'a identifié à des personnages sanguinaires des contes. Notamment, on l'a identifié au fameux Barbe Bleue. Hein. Qui n'a pas entendu de Barbe Bleue, cet épouvantable personnage qui fait frémir et cauchemarder les enfants et les adultes quand on raconte ces histoires. Il se trouve que derrière ce barbe bleue se cache un personnage qui, le samedi 22 octobre 1440, hein, pensez à 1429, Orléans et Jeanne d'Arc qui chassent les Anglais, 1431, Rouen et Cochon qui la juge et la fait brûler. On est à peine plus tard, 22 octobre 1440, journée la plus extraordinaire, la plus étonnante d'un procès sans pareil qui a commencé le 19 septembre. Car depuis cette date, le baron de Retz, ou de Retz, R-A-I-S ou R-E-T-Z, le plus illustre des seigneurs de l'Ouest, appartenant à la famille des Laval, cousin du célèbre La Trémoille, chancelier de Charles VII, compagnon de Jeanne d'Arc, maréchal de France, qui jusque-là n'a eu que mépris pour le tribunal du duc de Bretagne, qui a ignoré avec superbe les crimes les plus effroyables dont on l'accuse et a même à plusieurs reprises insulté ses juges, vient de craquer. Il vient de craquer parce qu'il a été menacé la veille même de passer par ce supplice épouvantable de la question. Il s'est effondré. Et voilà que lorsque le juge lui demande « Voulez-vous dire autre chose ou objecter contre ce qui vous est reproché ?» Et mes amis, on ne lui reproche pas n'importe quoi. Il s'est entouré de sorciers. Il a cherché des ressources dans l'alchimie, la magie noire. Il a sacrifié des centaines d'enfants qu'il faisait enlever. D'abord pour les faire disparaître après avoir assouvi ses perversions, puis par sadisme et enfin par satanisme. Et quand donc le juge lui pose cette question, le regard embué de larmes, et pour la première fois de sa vie sans doute, le maréchal, à forte voix pour être bien entendu du public qui se presse, haletant, bouleversé. Et dans ce public se trouvent les parents de petites victimes. Dans cette grande salle voûtée du château de Nantes, il répond « Je ne veux dire que volontairement et librement, avec une grande contrition de cœur et une grande amertume, que je reconnais tous les crimes dont le tribunal m'accuse. Je confesse, poursuit le maréchal, avoir commis et perpétré d'autres grands et énormes crimes. Uniquement depuis le commencement de ma jeunesse, contre Dieu et ses commandements, que j'ai offensé notre Sauveur, du fait, écoutez bien, du mauvais gouvernement que j'ai eu dans mon enfance, où sans frein, je me suis appliqué à tout ce qui me plaisait et je me suis complu à tous les actes illicites. » Et le maréchal, alors de se tourner vers le public, l'ogre en pleurs, comme on l'a appelé, et de dire ceci: « Je prie ceux des assistants qui ont des enfants de les instruire dans les bonnes doctrines et de leur donner l'habitude de la vertu pendant leur enfance. » Et plus tard, il s'écriera encore, comme s'il voulait marquer une fois pour toutes que c'est dans l'éducation elle seule qu'il faut chercher la cause de tous ces crimes. Moi je dirais non, j'irai plus loin, c'est dans son cœur perverti. Il ajoute: « Pères et mères qui m'entendez, gardez-vous, je vous en supplie, d'élever vos enfants dans la mollesse. Si j'ai commis tant et de si grands crimes, la cause en est que dans ma jeunesse, on m'a laissé aller au gré de mes volontés. »
Après cela, ce maréchal de France sera exécuté. Toile de fond de ces grandes règles pratiques d'éducation. L'enfant est mauvais dans sa nature dès son enfance. Toile de fond à cette nécessité d'une éducation ferme dès le berceau, parce que c'est tout petit que l'éducation est décisive pour toute la suite de notre comportement. Avec heureusement ce rayon lumineux venu d'en haut, de la grâce de Dieu, pour celui ou celle qui précisément n'a pas été au bénéfice d'une éducation selon Dieu, imparfaite certes, mais selon Dieu, il faut naître de nouveau. On peut tout recommencer. On peut repartir à zéro. On peut recevoir une nouvelle nature. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit afin que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Donc, pas de désespérance pour quiconque serait tenté de croire à l'inéluctable et de dire c'est trop tard, c'est foutu. Non. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Viens à la croix pour connaître son salut, recommencer à zéro. Et le Christ vivant portera avec toi les conséquences qui ne peuvent pas changer parce qu'il en est lié aux lacunes de l'éducation. Mais il fera de toi un être nouveau. Mais en même temps, avertissement à tous ceux d'entre nous qui éduquent des enfants actuellement, pour que simplement nous nous inscrivions au cœur de la pensée de Dieu, que nous renoncions à des conceptions qui ne seraient pas celles de Dieu, qui seraient celles du monde, et que nous comprenions qu'il nous faut véritablement une éducation ferme dès le berceau, ce qui nous entraînera dans notre dernière étude cet après-midi pour cette série, ce week-end, à évoquer le principe et la pratique de l'obéissance dès les années de l'enfance. Tel sera notre thème pour cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons quand nous réalisons notre privilège d'avoir par ta parole des indications si claires et si sages pour l'éducation de nos enfants. Nous te bénissons parce que nous ne sommes pas obligés de nous laisser emporter au gré des marées qui viennent et partent, au gré de flots déchaînés allant dans toutes les directions. Nous te bénissons parce que nous n'avons pas besoin de rester des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la pensée des hommes. Nous te remercions pour l'encre que tu nous as donnée, qui pénètre dans le ciel, et qui assure à notre barque, à notre petite coquille fragile, une stabilité évidente sur cette mer démontée. Merci pour le roc de ta parole, de ta personne, pour le rocher de mon salut. Rends-nous en même temps sensibles à l'importance stratégique de ce que nous partageons. Mets-nous à cœur, non seulement dans nos sentiments, mais aussi dans notre volonté d'aligner notre vie sur ta pensée et de viser de tout notre cœur à éduquer nos enfants avec un amour ferme pour préparer pour eux un avenir qui soit riche de bénédictions d'en haut et riche de saines influences aussi sur leur entourage, sur les familles qu'ils fonderont peut-être à leur tour. Merci de mettre ton sceau sur ce que nous avons partagé. Merci pour ta grâce. Merci pour le temps de partage fraternel. Merci de préparer la rencontre de cet après-midi. Nous te bénissons, nous t'aimons, nous t'adorons en Jésus-Christ.